Europe Matin Weekend.
Bérénice Bourgueil.
Valérie Darmon, Roland Pérez, vous êtes à mes côtés. On va parler avec vous, Valérie, de homeschooling. Qu'est-ce que c'est que ce terme ? Homeschooling, yeah ! L'école c'est l'école à la maison, c'est ça ?
Ouais, l'école à la maison.
Ah oui.
Bah oui, c'est la rentrée quand même, hein, dans quelques jours. Donc il y en a qui se sont interrogés.
Et on va encore faire l'école à la maison, parce que c'est vrai que ça avait le vent en poupe jusqu'au Covid à cause de la méfiance des parents par rapport à l'école, par rapport aux enseignants qui avaient de plus en plus de difficultés à se poser en tant qu'adultes face aux élèves et en raison des classes surchargées. Et puis, si l'obligation vaccinale finit de convaincre certains d'entre eux, les enfants et les ados, là, ils ont envie de retourner à l'école.
Ouais.
Je crois savoir pourquoi, mais c'est un bon ou un mauvais choix, ça, Valérie ?
C'est ni bon ni mauvais, en fait. Alors,
D'accord.
Je ne suis pas du tout normande, je ne fais pas une réponse de normande, je suis plutôt de l'Oise. L'Oise où il fait 10 degrés aujourd'hui, d'ailleurs, hein, ce matin. Voilà, donc en fait, ça dépend comment ça se passe avec les parents, ça dépend le rapport qu'on a à son parent, ça dépend l'endroit où l'enfant est scolarisé et comment se comporte l'enfant. Ça, c'est de toute façon la base. Actuellement, il y a quand même 30 000 enfants qui ne sont pas scolarisés en France, hein. Alors, ceux-là ont tout simplement leurs parents comme professeurs. Depuis Jules Ferry, de toute façon, l'instruction est obligatoire de 6 à 16 ans, mais pas la scolarisation.
Ah.
Instruction, oui, scolarisation, pas forcément. Et d'année en année, davantage de familles appliquent donc ce droit, d'ailleurs.
Bon, alors justement, je vais me retourner vers vous, Roland. Que dit cette loi spécifiquement ?
Alors, on sait qu'elle va changer là, dans très peu de temps, puisqu'une nouvelle loi a été votée. Il faut savoir que jusqu'à présent, comme l'a indiqué Valérie, c'est l'instruction qui est obligatoire,
d'accord,
donc pas l'école. Donc, les parents ou une personne qu'on peut parfaitement désigner, on peut faire l'école à la maison pour tous les enfants d'une même famille. On ne peut pas demander aux voisins de venir d'apporter ses enfants et de dire je vais
d'accord,
faire une espèce
famille,
d'école privée. C'est que la famille. Le maire, on a 8 jours hein, pour dire au maire de la commune où on va le faire. Voilà, nos enfants ne vont pas aller à l'école. On va faire l'école a priori à la maison ou dans un autre endroit. On n'est pas obligé d'être dans la chambre ou dans le living room de la maison. On peut le faire dans un autre endroit, mais c'est une école donc faite par les parents ou par des personnes désignées. Et puis il y a la direction académique évidemment de l'éducation nationale qui va vérifier quand même.
Oui, j'allais dire. Ils font comment ? Ils font des tests.
Il faut bien qu'il y ait des connaissances acquises quand même.
Bien sûr.
Se dise est-ce que les parents quel outil pédagogique ont-ils ? Quelles méthodes vont-ils utiliser ? Est-ce qu'il y a véritablement une acquisition par ces enfants de tous les éléments pédagogiques utiles, et donc on va faire des contrôles tous les ans, et au bout de contrôles, attention, si les enfants ne sont pas à niveau, là on va dire aux parents obligation immédiate d'inscrire les enfants dans une école, vous ne pouvez pas continuer comme ça.
Donc là, ce sont les parents qui sont...
Et là, c'est des amendes, 7 500 € dans un premier temps, 15 000 € après. Enfin, on va presque venir chercher les enfants pour les obliger à aller à l'école. Donc tout ça est quand même organisé.
Alors Valérie, qu'est-ce qu'on entend par école à la maison ?
En fait, il y a deux moyens d'éduquer son enfant. Il y a le CPC, donc cours par correspondance. Les enfants sont inscrits à des cours par correspondance publique avec le CNED, par exemple, ou des cours privés. Alors il y a le GEND, il y a PI, il y a EPC. Donc ces cours qui suivent donc le programme scolaire. Et dans chaque matière, on a des devoirs corrigés et notés par l'organisme. Tout cela, c'est régulièrement envoyé à ces organismes. Puis il y a l'IEF. C'est instruction en famille. Là, les enfants sont instruits en famille, sans cours par correspondance, reconnus par l'État. Et là, comme le dit Roland, on a des inspecteurs de l'éducation nationale qui viennent contrôler les familles une fois par an.
Bon, et comment on fait pour se retrouver dans tous les cours par correspondance, du collège au lycée ? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'ils ont fait leurs preuves ?
En fait, on s'intéresse vraiment aux foires aux questions avant de s'inscrire. On utilise les comparatifs en ligne. On n'hésite pas à aller sur les forums des parents. On fouille, on cherche, on trouve. En fait, ce qu'ils ont tous en commun, de toute façon, c'est ces personnes qui mettent leurs enfants, qui font l'école à la maison. C'est qu'en fait, ils mettent l'enfant au centre de l'éducation, au centre de l'instruction. Et ils essayent d'appliquer un fonctionnement qui correspond vraiment à leur enfant. Alors, comment ça se passe en vrai ?
Ouais.
Eh bien, on a Jonathan, qui est très sympa, qui se lève très tôt le samedi matin, qui est avec nous en ligne. Bonjour, Jonathan.
Bonjour. Bonjour, oui.
Bonjour.
Vous êtes effectivement, il est très tôt. Oui.
Voilà, il est très tôt. Et vous êtes papa de Lola, 4 ans, et de Lana, 9 ans.
Exactement.
La première n'a jamais connu la maternelle. Elle n'a encore jamais mis les pieds à l'école. La seconde, elle a été déscolarisée en CE2 et puis rescolarisée en CM1 à sa demande. Alors, comment ça s'est vécu, l'école
Exactement.
À la maison ? Comment vous l'avez vécu ?
Eh bien, nous, l'école à la maison, ça n'a pas été notre choix. Nous, ça a été le choix de notre fille, en fait. Tout simplement parce que je pense qu'il faut être à l'écoute de son enfant. Et bien évidemment, vous vous doutez bien que si on l'a retirée d'une scolarité, donc de l'école où elle était, c'était pour une raison valable, c'est-à-dire que notre enfant, étant donné qu'on est très à l'écoute et qu'elle se confie énormément, à cette époque-là, elle subissait des pressions de sa maîtresse. Chaque enfant est différent. Le problème, c'est que les classes sont souvent très surchargées. Et là, malheureusement, cette maîtresse n'avait pas la psychologie ou peut-être la formation ou que sais-je, pour prendre en charge mon enfant, ma fille, qui est très sensible. Et donc, on a décidé de la retirer de l'école où elle était, à sa demande, puisqu'elle était vraiment très mal. Elle ne dormait plus la nuit, du stress d'aller à l'école. Donc ça a duré plusieurs mois.
Et donc c'est vous qui lui avez fait l'école à la maison, qui lui avez appris les maths,
exactement,
français, etc. Ça s'est bien passé? C'était facile d'apprendre à son enfant?
Alors, ça s'est bien passé dans le sens où c'était en CE2, donc on va dire que c'était encore assez simple. Je n'ai pas l'expérience du collège ou du lycée, donc je ne pourrais pas vous parler de cette expérience-là. Et bien évidemment, si ça venait à arriver, je pense que, ne serait-ce que par le temps et par les compétences, on aurait fait une demande, non seulement, comme vous l'avez précisé, très bien précisé, il y a des cours par correspondance avec le CNED, et puis peut-être prendre un professeur ou une aide à la maison qui nous aurait aidé aussi.
Et Lana a décidé, pardon de vous couper Jonathan, mais Lana a décidé de revenir à l'école d'elle-même. Est-ce qu'elle a été au niveau quand elle est re-rentrée en CM1?
Tout à fait. Non seulement elle était au niveau, mais en plus elle avait cette motivation pour l'être. C'est-à-dire que on a laissé le temps au temps. On lui a demandé pendant les vacances d'été si elle souhaitait reprendre l'école. Alors il se trouve qu'à ce moment-là, on avait déménagé de ville, donc on lui avait dit qu'elle allait être dans une autre école avec une autre maîtresse, et elle avait cette pression en moins et cette curiosité. Qui fait que de elle-même, elle nous a fait la demande, oui effectivement je veux retourner à l'école, et on l'a mis à l'école. Alors ce qui a été très étonnant, c'est que bien évidemment quand on dit à la directrice d'école, quand on prévient sa nouvelle maîtresse qu'elle a fait une année à la maison, on nous regarde avec des gros yeux.
Et finalement, ça s'est bien passé.
Ça s'est très bien passé.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan, de votre témoignage. Merci de vous être levé si tôt et d'être avec nous sur Europe 1 ce matin.
Merci. Merci, Jonathan. Restez avec nous, vous, Valérie, et puis on vous retrouve dans quelques instants.
Mais oui.
Europe Matin Weekend. Europe Matin Weekend. Bérénice Bourgueil.
Ça vous concerne avec Valérie Darmon, Roland Pérez. Valérie, une petite conclusion sur ce dont on a parlé, l'école à la maison.
L'école à la maison, c'est la pédagogie différenciée, à ne pas confondre avec l'éducation bienveillante, bien sûr. Ça, c'est encore autre chose. C'est un concept qui nous vient des États-Unis, où là, en fait, on est tout le temps bienveillant avec ses enfants, mais on est souvent maladroit. Alors, par exemple, quand on dit à son enfant qui vient tout juste d'apprendre à marcher, attention, tu vas tomber, c'est sûr qu'il va tomber. Alors, on fait naître chez lui la peur. Donc, c'est mieux de dire, je reste près de toi, et si tu as besoin, je suis là, on est toujours là pour eux, on l'a vu avec Jonathan, on les écoute, on suit leur fonctionnement, on suit leur développement.
Alors si j'écoute les enfants, ils disent « Ah non, pas l'école, on veut retourner en vacances ». Revenons quelques instants en vacances avec vous, Roland. On a vu tous les variants, le Covid, la Covid, tout ça, j'ai dû annuler mes vacances, Roland.
On se retrouve dans plusieurs situations. Alors on a pu d'ailleurs les annuler cet été, mais on peut les annuler aussi au mois de septembre, parce que évidemment les variants continuent à circuler, et il y a des régions qui ne sont évidemment pas recommandées à l'heure actuelle. On peut se retrouver confronté à se dire, je voulais prendre mes vacances là en septembre et je vais devoir annuler. Alors, on a plusieurs situations, Bérénice. On a évidemment la situation, on a acheté un vol sec. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a l'hébergement et on a le voyage un peu organisé, tout compris. Pour le vol sec, si le vol est maintenu, Covid ou pas Covid, de toute façon, vous perdrez votre voyage, sauf si vous avez fait une assurance annulation spécifique,
d'accord,
sauf si vous justifiez d'être malade, etc. Mais autrement, quand tant que le vol est maintenu, vous partirez. Pour l'hébergement, ça va être un peu le contrat que vous avez passé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des clauses, vous savez, des clauses d'annulation Covid qui sont prévues, qui se sont invitées dans les contrats, et on prévoit effectivement une possibilité d'annulation si l'un des occupants a le Covid ou si dans la région où on se rend, il va y avoir des difficultés. Mais là aussi, c'est le contrat qui va le dire. Et puis, il y a les voyages tout organisés où là, on va regarder s'il y a véritablement des circonstances qui font que, qui sont un peu inévitables et qui font qu'on ne pourra pas se rendre dans cette destination. Et là, ça ne fait pas l'ombre d'un pli. Vous serez intégralement remboursé. Mm-hmm. Vous avez 14 jours, enfin, l'agence de voyage a 14 jours. Et à partir du moment où votre voyage est annulé, pour procéder au remboursement.
Bon, et si on a pris nos dispositions pour l'hôtel, mais on n'a pas pu prendre notre vol parce que, voilà, on n'avait pas, par exemple, notre passe sanitaire, on a des chances de revoir notre argent ou pas ?
Dans votre phrase, vous le dites, hein, vous n'avez pas votre passe sanitaire, vous avez la possibilité de l'avoir, c'est vous qui avez décidé de ne pas l'avoir, de ne pas vous faire vacciner, c'est un choix, et on ne va pas en discuter ce matin ici, mais en attendant, donc le voyage sera parfaitement maintenu, le vol est maintenu, la compagnie d'aviation a affrété un avion, donc vous perdrez, donc ça va être on va vous rembourser les taxes aéroportuaires, ou en fonction de l'annulation, de la date d'annulation, vous serez peu ou prou remboursé.
Alors, les assurances de ma carte bancaire, par exemple, avec laquelle j'ai payé le voyage, elle peut me rembourser ?
Alors, elle va vous rembourser si vous tombez effectivement malade. Si effectivement, vous avez soit le Covid, soit une autre maladie, et qu'un médecin va vous prescrire un arrêt disant que vous ne pouvez pas voyager. En tout cas, le voyage est parfaitement déconseillé. Donc, dans ce cas-là, effectivement, l'assurance prendra en compte ça. Mais aujourd'hui, le Covid, on le connaît, c'est plus un aléa. L'assurance, elle vient venir couvrir ce qu'elle ne connaît pas. Si vous arrivez un pépin, mais si le pépin, on le connaît d'avance. Si on sait que ça existe, effectivement, c'est plus un aléa. Donc voilà, l'assurance, elle a des limites.
Et puis vous parliez au début de votre chronique là, des voyages organisés, transport, hôtel, excursion, qui sont traités différemment.
Oui, alors ils sont un peu traités différemment parce que là, on va regarder les régions. Il y a des régions comme les zones aujourd'hui, zones rouges. Il y a les DOM-TOM, on en parlait dans les. Vous parliez de la Martinique, de la Guadeloupe aujourd'hui, où il est plus que déconseillé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces régions n'acceptent plus de voyageurs. On ne veut plus que les voyageurs viennent. Et sur place, c'est également compliqué. Donc là, à partir de l'an où la zone a été classée zone rouge, là, ça ne fait pas l'ombre d'un pli. Vous serez remboursé également.
D'accord. Bon, en gros, si on veut résumer pour ceux qui nous écoutent et qui espèrent se faire rembourser.
Alors, à partir du moment où le Covid, on le connaît, si on le connaît, bah, a priori, soit vous l'avez prévu dans le contrat que vous allez passer pour un hébergement ou pour un voyage. Si véritablement la zone est fortement déconseillée, bah, vous serez sans difficulté remboursé. Mais si ce n'est pas le cas, il faut aujourd'hui le mettre dans le contrat de réservation que vous allez passer avec l'agence.
Et puis, dernière question, il y en a beaucoup qui n'ont toujours pas été remboursés, des avoirs non utilisés et mis en place lors du premier confinement par pouvoirs publics. Alors, quels sont les recours ?
Les 18 mois ont expiré. Il y avait 18 mois d'avoirs. C'était l'obligation faite par les pouvoirs publics qui a permis aux agences de voyage de pouvoir conserver l'argent pendant 18 mois et donner un avoir. Si cet avoir n'a pas été utilisé totalement ou partiellement et qu'aucun voyage n'est prévu, ça ne fait pas l'ombre d'un pli. Vous demandez le remboursement, vous faites une lettre recommandée. Vous n'allez pas embêter le médiateur du voyage parce que là, il n'en peut plus. Il a reçu tellement de demandes que ce n'est pas la peine de l'ennuyer aujourd'hui. Vous avez un site qui est très bien fait, qui s'appelle litige.fr. Il vous fait la lettre et il saisit le tribunal à votre place. Et là, je peux vous dire que l'agence de voyage, quand elle va recevoir la petite lettre recommandée et la saisine du tribunal, vous devriez être remboursé illico presto.
litige.fr, merci beaucoup Roland. Restez avec nous.
Je reste avec vous.
On est ensemble jusqu'à 9h. C'est Europe Matin Week-end. Bienvenue à vous.